C'est un moment avec moi en réflexion sur la prière. Alors vous savez, la prière, c'est un sujet très vaste. On peut un peu comparer la prière à un éléphant, où en fonction de la manière dont on approche l'éléphant, on verra un aspect de l'éléphant et on le décrira tel qu'on le voit. Alors ce que je vous invite, c'est de faire un petit chemin avec moi, qui j'espère va vous aider dans votre réflexion personnelle sur la prière. Mais quoi qu'il en soit, d'autres vous parleront de la prière autrement et ils auront raison. Ils auront raison et ils vous aideront également à vous progresser dans votre réflexion spirituelle. Alors, vous savez que 80% de nos prières concernent notre état de santé ou celui de nos proches. Et je vous invite à commencer notre réflexion en regardant dans les évangiles, justement, trois passages, donc trois expériences où on voit que Jésus a répondu à la prière de personnes pour être guéri. Le premier passage que nous avons lu montre 10 lépreux. Donc on peut supposer qu'ils sont quand même malades. Et ils demandent à Jésus de les guérir. Alors il faut imaginer la scène. Jésus va de village en village en Galilée pour prêcher. Et ces lépreux sont à l'entrée du village, donc dehors. Quand on est lépreux, on se fait des nouveaux copains. Ils sont là entre tout un groupe de lépreux et ils ont dû entendre parler de Jésus auparavant. Peut-être qu'ils l'ont entendu eux-mêmes de loin. Peut-être que des proches sont venus leur en parler. Parce que on a beau être lépreux et on est prié de quitter la société, on en garde quand même sa famille et ses amis qui viennent, qui sortent du village, qui viennent vous apporter de la nourriture, qui parlent avec vous de loin, qui vous donnent des nouvelles. Et ces lépreux qui voient Jésus approcher, voient en Jésus leur chance d'être guéris. Et ils crient, Jésus, guéris-nous. Et vous voyez que Jésus ne s'attarde pas beaucoup, il ne rentre pas dans un long dialogue. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et les voilà qui partent en galopant. Mais il y en a un qui fait demi-tour et qui revient aux pieds de Jésus. Il revient, non pas pour lui dire merci, hein, ce n'est pas une parabole sur la politesse, mais parce qu'il a compris que quand Jésus le guérit, en fait, Jésus lui redonne la vie. Ce n'est pas seulement la guérison que Jésus lui donne, mais c'est carrément une nouvelle vie sociale et une nouvelle vie spirituelle. D'autant plus que dans la société, pour chacun de ces personnes était ancré dans leur esprit que leur état physique témoignait de leur état spirituel. Et Jésus qui acceptait de le guérir, pour lui, c'était une guérison spirituelle également. Et Jésus a très bien compris ce que ce lépreux avait dans son cœur, comment est-ce qu'il vivait cette guérison. Et il se tourne vers lui, on passe sur le fait que c'était un Samaritain, et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Moi, je trouve que la foi des 9 autres est déjà pas mal, hein, parce qu'ils ont couru pour être guéris, simplement sur base de leur foi, de ce que Jésus a raconté, leur a demandé de faire. Mais Jésus a répondu à leur prière, à tous les 10. Mais je ne sais que d'un seul qui l'est sauvé, hein. Les 9 autres, je ne sais rien. Alors, Jésus a répondu à leur prière, mais qu'est-ce que ça signifie réellement en fait? Pas grand-chose. Oui, ils sont guéris. Mais est-ce que ça va les amener au ciel? Je n'en sais rien. Alors prenons un autre exemple, si vous voulez. Encore cette fois-ci, encore dans Marc chapitre 1, 40-45, dans une autre histoire de lépreux. Cette fois-ci, notre homme est seul, je ne sais pas pourquoi, et Jésus est dans le village en train de prêcher. Et lui, il n'a pas peur, hein. À l'époque, il savait déjà que la contagion, c'était mieux de s'en prévenir en demandant aux malades de s'exclure des biens portants. Et notre lépreux, là, il rentre dans le village. Alors qu'on lui demande d'être gentiment dehors, et alors que Jésus est en train de prêcher, donc il faut imaginer autour de lui tout un groupe de personnes qui écoutent Jésus, lui il fend la foule et il s'approche de Jésus. Mais quand il s'approche de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as tout le monde qui s'écarte, évidemment. Il se jette aux pieds de Jésus et il demande à Jésus, dans ton suppliant, d'être guéri. Alors Jésus le touche et lui dit, je le veux, sois pur. Et ensuite, avec de sévères recommandations, il le renvoie, il lui dit exactement ce qu'il doit faire. Donc il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc non seulement il lui dit ce qu'il doit faire, mais il explique pourquoi. Il dit, afin que ça leur serve de témoignage. Parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque? Ben, quand on pensait avoir la lèpre, soit qu'on leur découvre soi-même, soit que les proches commencent à se douter de quelque chose, ben, il n'y avait pas vraiment de médecin et on devait se montrer au sacrificateur. Et alors, on se montrait là et c'était le sacrificateur qui devait décider si oui ou non on avait la lèpre. En conséquence de quoi, donc, on devait partir en dehors du village et se signaler avec une crécelle, des morceaux de bois, faire du bruit pour éviter la contagion. Et quand on était guéri, c'était l'inverse. Il fallait se montrer chez le sacrificateur, et c'est le sacrificateur qui déclarait qu'on était guéri. Et tant qu'il n'avait pas déclaré qu'on était guéri, bah, on était considéré comme toujours malade. Et donc Jésus dit, tu files chez le sacrificateur afin qu'il voit que tu es guéri. Et tu lui présentes, donc tu respectes la loi, et tu lui présentes une offrande pour ta guérison. Et voilà, et qu'est-ce que va faire notre homme? Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Pourquoi est-ce que Jésus tenait à ce qu'il aille directement chez le sacrificateur? Mais tout simplement parce que le sacrificateur aurait reconnu lui-même qu'il est guéri. Et c'est par après seulement qu'il aura appris comment il a été guéri. Et pour lui, ça aurait été un témoignage. Il a dit, ah, c'est comme ça que tu as été guéri. Tandis que maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer? Notre homme, sans doute qui considère que Jésus est un peu timide, et il veut lui rendre grâce. Donc il ne fait pas ce que Jésus lui a demandé, et raconte partout donc, que Jésus l'a guéri. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que la nouvelle va arriver aux oreilles du sacrificateur, et pour peu que celui-ci ne soit pas très content, et ne soit pas très en favorable de Jésus, énervé, tout ce qu'on veut, quand un beau jour, le lépreux aura décidé de se montrer au sacrificateur, peut-être celui-ci va dire, attends, laisse-moi réfléchir, je ne suis pas sûr, reviens demain. Le témoignage ne sera pas si fort. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est supposé d'être toujours malade. Jésus a touché le lépreux. Donc on ne sait pas. Peut-être que Jésus est aussi maintenant lépreux. Peut-être qu'il a été contaminé. Donc il est prié d'être dehors, Jésus, dehors du village, en attendant que le sacrificateur ait déclaré que le lépreux soit guéri. Donc on a on inverse la situation. Avant, le lépreux est dehors et Jésus peut être dans le village. Et maintenant, le lépreux est royaume dans le village et Jésus est prié d'être dehors. Mais il a été guéri. Jésus a répondu à sa prière. Mais qu'est-ce que ça signifie finalement? Est-ce qu'il est conscient qu'il a compliqué la tâche de Jésus, même en étant exaucé par sa prière? Alors, j'imagine qu'il raconte partout, donc qu'on le voit, comment Jésus l'a guéri, et il est persuadé de rendre gloire à Dieu, donc de témoigner pour Jésus. Mais est-ce qu'il est conscient de la difficulté qu'il a causé à Jésus? Alors quand on regarde un petit peu, en fait, on voit, ça doit marcher. Alors, si vous regardez bien, il est marqué Jésus ému étendit la main. Jésus ému étendit la main. Mais ma Bible, qui est assez large, permet d'avoir toute une série de notes critiques en dessous, où on explique, on fait des références avec d'autres textes. Et à ce verset-là, je peux voir dans plusieurs manuscrits en colère. Donc dans d'autres manuscrits, il est marqué en colère. Peut-être que je m'y prends mal. Voilà, en colère. Donc, vous savez que rien que pour le Nouveau Testament, on a environ 3000 manuscrits, hein, et on va encore en découvrir. Hein. Et donc, quand on regarde chacun de ces manuscrits, on se rend compte qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Et il y a toute une famille de manuscrits, on voit qu'on ému, et d'autres en colère. Mais ce n'est pas la même chose, hein, ému et en colère. Quel est le mot qui était utilisé dans le texte original ? Par après, je dis, Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. Donc, sur ce qui suit, moi, il me semble que Jésus n'est pas très content de la manière dont le lépreux s'y prend, de son sans-gêne, en quelque sorte. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en colère, pourrait très bien s'y accorder, s'accorder au contexte. Je peux imaginer que les scribes, puisque tous, pendant des siècles, la Bible a été réécrite à la main, hein, donc je peux m'imaginer qu'un jour, un scribe, en recopiant, dit « Mais non, c'est pas possible, Jésus en colère, il doit avoir une erreur. Je vais apporter une petite modification et mettre un peu plus d'humanité et mettre ému. » Peut-être, je ne sais pas. Mais dites-moi, la Bible que nous avons tous, ce sont des gens qui comprennent le grec et l'hébreu qui l'ont traduite. Ce sont des savants. Ils ont des références. Donc ils se mettent, c'est un comité en fait, on connaît les comités, comment ça se passe. Donc ils se mettent en groupe et ils parlent, ils discutent, ils comparent et puis ils décident, bon, quelle traduction on va mettre. Et par honnêteté, ils mettent qu'il y a d'autres manuscrits. Mais ces gens, pourquoi ils n'ont pas fait le choix eux-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une seule Bible avec une seule traduction ? Je veux dire, ils ne peuvent pas prier entre eux pour avoir la réponse ? Moi, j'ai entendu que parfois, quand on a des questions, même dans notre Église, des graves questions, ben, on demande aux membres de prier, aux délégués, quand il y a une assemblée, et puis on arrive à un vote. Est-ce qu'il manquait de foi ? Pourquoi on n'a pas une seule Bible, finalement ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas résolu tous ces problèmes de traduction en priant ? Alors, continuons un peu plus loin. Cette fois-ci, nous avons une autre histoire. Cette fois-ci, c'est une histoire d'un paralytique. Quelques jours après, donc c'est dans le même chapitre de Marc, le passage suivant, quelques jours après, il revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Jésus leur disait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où ils se tenaient, et ils firent une ouverture par laquelle ils descendirent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, on peut de nouveau s'imaginer facilement la scène. Hein. Ellen White nous dit que ce paralytique est devenu paralytique, donc il n'est pas né comme cela. Et donc, de devenir paralytique, j'imagine que ça a dû le faire réfléchir. Et cet homme était rempli de culpabilité. Il a dû repasser sa vie en revue et se dire qu'à bien des moments, il aurait dû agir autrement. Culpabilité et beaucoup de remords. Et il n'a qu'une seule envie, c'est finalement d'être pardonné pour tout ce qu'il a fait de mal. Il a 4 amis qui s'occupent de lui. Donc, tout en étant paralytique, malgré les circonstances de la vie, il reste agréable à fréquenter. Il n'est pas acariâtre et 4 amis sont prêts à l'aider. Alors, on voit un peu la situation, un paralytique couché, la foule qui est là auprès de Jésus, c'est un peu compliqué de dire pardon, on risque de mal se faire recevoir. Et il y en a un qui a une bonne idée, il dit, on ne se fait pas rentrer par la porte, on va rentrer par le toit. Et ils montent, donc j'imagine que cette maison a un patio comme ça, donc ils ne sont pas commencés à pâter le toit avec, un burin, sinon j'aurais aimé voir la tête du propriétaire. Donc ils descendent le paralytique dans la maison, au pied de Jésus. Et Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Mais en fait, moi, si j'avais été paralytique, il me semble que j'aurais demandé d'abord d'être guéri. Et Ellen White nous dit que non, ce qu'il voulait, c'était vraiment être pardonné. Et que à l'écoute des paroles de Jésus, tes péchés sont pardonnés, son visage resplendissait. Il était heureux, parce que c'est pour ça qu'il s'est approché de Jésus, pour entendre ces paroles de délivrance qui le minaient et qui faisaient que sa culpabilité l'empêchait d'être heureux et tranquille. Mais donc dans une foule, il y en a toujours certains qui sont là pour observer, un peu de bonne foi, de mauvaise foi, un peu critique. Et là, ils se disent, mais enfin, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment parle-t-il ainsi? Tes péchés sont pardonnés. Et alors, ils se disent, mais il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus, en voyant la manière dont ces personnes raisonnaient, s'est tourné vers eux et leur a dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements? Qu'est-il plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi lève-toi et marche? Et donc, afin que cela vous serve de leçon, il se tourne vers le paralytique et lui dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. De sorte que tout le monde disait, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Alors, j'imagine que le témoignage de cet homme n'est pas tout à fait le même que celui des lépreux. Les lépreux partout, ils ont raconté partout que Jésus les a guéris, et comme Jésus était grand. Mais lui, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, oh, tu ne peux pas savoir, Jésus m'a pardonné. Oui, d'accord, Jésus t'a pardonné, mais comment ça se fait que tu marches? Attends, c'est une longue histoire, il faut que je te raconte. Et il va commencer à raconter comment ses amis l'ont amené jusqu'au milieu tout le monde va écouter. C'est un autre témoignage. Jésus m'a pardonné et en plus, il m'a guéri. Alors, parfois, nous, quand nous lisons une histoire comme ça, nous nous laissons séduire et nous disons, mais enfin, c'est quand même formidable parce que nous aussi, nous avons la foi et même la super foi. Nous sommes adventistes. Et finalement, ta foi t'a pardonné. Ta foi t'a sauvé, donc je t'ai pardonné et je t'ai guéri. Donc en fait, si on fait un petit raccourci, on pourrait presque dire ta foi t'a guéri. Et donc, parfois inconsciemment, nous imaginons que c'est par la foi que Dieu nous guérit. Mais ce n'est pas tout à fait ce que nous pouvons lire dans le texte. Et ce qui nous motive parfois à prier, parce que nous voyons que Jésus répond à la prière et peut nous guérir. Alors, vous savez, parler de la prière, c'est difficile parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend de notre vie, ça dépend de nous, où nous vivons, ça dépend des expériences que nous avons faites. Et quoi qu'il en soit, je crois que la seule chose que nous puissions faire, c'est toujours prier. Prier parce que quand on souffre, quand on est dans le doute, qui d'autre que Jésus peut être à nos côtés et nous entendre? Donc, quoi qu'il arrive, peu importe comment nous prions et ce que nous prions, continuons à prier. Mais en fonction de notre âge, la prière peut être différente. En fonction de où on habite, peut-être juste un passage d'Ellen White en rapport avec lecture que nous avons faite sur le lépreux. Ellen White écrit « Jésus n'accorde pas toujours immédiatement la guérison à ceux qui sollicitaient de lui cette faveur. Mais le lépreux obtint sa grâce dès qu'il l'eut demandé. Quand nous quêtons des bienfaits terrestres, la réponse à nos prières peut subir un délai et il se peut que Dieu ne nous donne pas exactement ce que nous avons souhaité. Il en va tout autrement quand nous prions pour être délivrés du péché. car Jésus veut toujours nous nettoyer du péché pour faire de nous ses enfants et nous mettre à même de vivre d'une manière sainte. Dieu intervient-il dans le monde ? Nous sommes dans notre vie confrontés à toute une série de questions. Dieu entend-il ma prière ? Finalement, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Comment est-ce que je dois mener ma vie ? Quel choix je dois faire ? Quand on est enfant, on a une certaine idée de ce qu'est Dieu. On a un peu l'idée d'un Dieu tout-puissant. Et donc, notre prière, le monde est magique autour de nous. Et donc, notre prière sera un peu magique. On pourra prier. Vous savez, quelqu'un a eu l'idée de faire un parallèle entre la foi que nous pouvons avoir et les étapes de croissance d'un bébé jusqu'à sa mort, les croissances dans la vie. Et la foi est différente parce que nous évoluons, nous grandissons, et en même temps, la prière est différente. Un petit enfant qui n'a pas encore l'âge de raison, pour lui, tout est magique autour de lui. Et il va prier pour qu'il fasse beau, ou pour qu'il fasse... pour qu'il fasse beau. En grandissant, un enfant va chercher à comprendre un petit peu ce qui lui arrive, ce qui se passe autour de lui. Et donc, il va être attentif aux explications qu'on lui donne. Il est avide d'apprendre. Et pour lui, il y aura un lien de cause à effet entre ce qui se passe et ce qui arrive. Et par après, qu'en grandissant, il va se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il arrive quelque chose qui n'est pas lié à une cause. Enfin, c'est parfois sans raison. On ne comprend pas toujours pourquoi quelque chose arrive. Et donc, il va commencer à remettre en question cet aspect automatique. Quelque chose arrive et quelque chose en suit, il y a une conséquence. Et par après, on se rend compte que le monde n'est pas aussi simple, noir ou blanc que ça. Et on arrive à la sagesse où finalement, ce qui importe, c'est ce que nous vivons et que ce que les autres vivent, ma foi, ce n'est pas nécessairement à nous de leur imposer notre vision. Mais ça fait longtemps que je me suis rendu compte que prier pour qu'il fasse beau, ça n'avait pas toujours pas tellement de sens, parce qu'à côté de moi, il y a l'agriculteur qui prie pour qu'il pleuve. Et donc, si Dieu devait exaucer toutes les prières pour qu'il fasse beau, on serait déjà mort de soif. Hein. Mais je le sais. Mais en même temps, le jour où je marierai un de mes enfants, peut-être que je ne pourrais pas m'empêcher de prier pour qu'il fasse beau. Donc on passe toujours d'un stade à l'autre. Si je suis en plein dans un pays aride et que la pluie est nécessaire pour que je puisse manger, pour qu'il y ait une bonne moisson, ma prière sera différente. En fonction de l'endroit où je me trouve, je peux avoir peur. Et quand on a peur, on prie. Ou je peux être démuni. Paul a prié 3 fois pour être guéri. Aujourd'hui, j'imagine qu'il demanderait juste des conseils pour choisir le bon médecin et One Day Clinic, hein, il rentre le soir, il est peut-être guéri. Un mal de dents ici n'est pas le même qu'en Afrique. Et alors, ce qui m'a réfléchi à ça, c'est, figurez-vous, j'ai un ami, et il me téléphone, il me raconte que sa voiture a été saisie à la fourrière. Donc, c'était une plaque étrangère, une plaque de l'Est. Sa voiture était au nom de sa femme, c'est lui qui conduisait. Bref, il n'était pas en ordre. Et la police a dit, en attendant que vous mettriez en ordre, on va immobiliser votre voiture. Et il était embêté parce qu'il devait retourner dans son pays d'origine et tout ça. Et il me dit, prie pour moi. Alors, j'étais un peu interloqué. Je me dis, tiens, est-ce que j'ai bien compris ? Mais pourquoi tu veux que je prie pour toi ? Je dis, pour que je puisse récupérer ma voiture. Oh, j'étais vexé. Je dis, on est en Belgique quand même, tu vas aller récupérer ta voiture. Moi, je dis, je ne vais pas prier pour que tu récupères ta voiture, mets-toi en ordre. Mais en même temps, je dis, mais il a peur, le pauvre. Moi, si j'avais ma voiture coincée dans son pays, peut-être je serais aussi un petit peu angoissé, finalement. Et puis plus tard, le même d'ailleurs, on apprend qu'il va partir au Canada pour travailler au Canada. Alors, on l'avait employé, on l'avait engagé, donc c'est un pasteur, il n'y a pas longtemps. Et il ne nous avait rien dit. Alors on va le voir. Il dit, mais comment ça se fait que tu veux partir ? Il dit, mais il faut que je t'explique. Il y a un ami qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui parlait justement ma langue. Alors avec ma femme, on a prié. Alors on a dit, pourquoi ? On a toujours rêvé d'aller par là-bas. On va postuler. Et ils nous ont acceptés. Je dis, bon, d'accord, mais comme je le connaissais un peu, je dis, d'accord, mais est-ce que tu as déjà annoncé à ton église que tu vas partir? Non, pas encore. Je dis, tu veux me faire plaisir, quand tu annonceras à ton église, dis simplement que tu as postulé parce que tu avais envie de partir et que tu... la réponse était positive. Ce n'est pas nécessaire de dire que Dieu a répondu à ta prière. Je dis, oh non, pourquoi? Je dis, bah, écoute, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, mais ce que je sais, c'est que ta volonté à toi. Donc, peut-être, je comprends que tu aies prié pour que, savoir si Dieu allait te, enfin, si la réponse allait être positive ou négative, mais enfin, il y a une chance sur deux. Je ne sais pas, moi. Ce sera difficile à ma femme de lui faire comprendre que j'ai acheté une BM parce que la porte de l'autre garage était fermée. Alors, voilà, j'ai prié pour qu'il y ait une porte de garage ouverte et c'était celle de BM. Vous savez, parfois, face à ce qui nous arrive, alors que de tout notre cœur, on s'applique à suivre ce que Jésus et Dieu nous demandent, à être fidèles dans notre foi, parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et alors, on peut se dire, mais pourquoi ça arrive à moi? Mais j'ai envie de dire, mais et pourquoi pas? Tu préfères que ça arrive à moi? Ah non, 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 pas à toi, non, non. Mais à qui alors? À un pécheur? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Alors il réfléchit, il dit, oh, non, non, à personne. Je dis, ben alors, du coup, ta prière est totalement différente. C'est plus pourquoi ça m'arrive à moi, mais c'est Seigneur, pourquoi est-ce que ça arrive à nous tous qui souffrons? Et le fait que quelque chose t'arrive, t'amène à te montrer solidaire de tous ceux qui souffrent comme toi. Paul l'écrit d'ailleurs dans 2 Corinthiens, il dit « Béni par le Dieu, par le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que qu'à par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Je me souviens, moi je ne souffre pas de migraine, et ma femme, mon épouse, oui. Mais une fois, j'ai eu terriblement mal de tête. Je n'ai pas dormi, très très mal dormi pendant plusieurs jours et j'étais malade. Je ne savais plus me lever et j'avais mal de tête terriblement. Et je me souviens, le maître dit, ah, enfin, je sais ce que c'est que d'avoir mal de tête et je peux un peu comprendre à quoi ça ressemble. C'est difficile de vivre sur la terre si nous pensons que tout ce qui nous arrive a un sens, finalement. Quand on avait posé à Jésus la question, il y a une tour, la tour de Siloé, est tombé et a tué 18 personnes. Et alors, la question, c'est de se voir, mais pourquoi ces pauvres gens sont morts, écrasés par cette tour? Et Jésus va dire, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, par qui ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et il va prendre donc l'exemple ensuite de la tour de Siloé et dire la même chose. Si votre enfant vient une fois à la maison en vous disant « Papa, papa, il y a Coralie qui s'est fait écraser en traversant la rue. Est-ce que c'est parce qu'elle a fait quelque chose de mal ?» Vous allez lui dire « Non, pas du tout. » Mais toi, fais attention que ça ne t'arrive pas. C'est un peu la même chose. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Que ce qui arrive vous fasse réfléchir pour que vous ne puissiez progresser dans la foi. Vous savez, finalement, ce qui nous arrive, nous ne savons pas pourquoi. Et nous devons l'accepter tel quel. Quand quelque chose m'arrive et je ne sais pas pourquoi, ben, moi j'appelle ça du hasard. Peut-être que ça a un sens et que Dieu sait pourquoi, mais moi je ne le sais pas. Donc pour moi, c'est du hasard. Pourquoi ne pas considérer que ce qui nous arrive est dû à la faute à personne? Pourquoi nécessairement vouloir comprendre pourquoi moi? Finalement, Imaginons un enfant qui souffre, qui est à son lit d'hôpital. Il est content d'avoir sa maman à côté de lui. Elle serait bien désemparée, sa maman, si l'enfant se tournait vers elle en disant « Mais maman, pourquoi, pourquoi ?» Faisons de notre Dieu un Dieu proche de nous, qui souffre avec nous, comme lui a souffert sur terre. Au plus, nos prières seront d'obtenir quelque chose, au plus, finalement, nous allons éloigner Dieu de nous, parce que parfois, il répond, parfois, il ne répond pas. De ne rien demander, parfois, et d'accepter notre situation fait que Dieu peut être à notre côté et nous le rapprochons de nous. Tout dépend de notre théologie. Nous aimerions tellement être dans un enclos, comme d'ailleurs dans l'introduction de Job, hein, c'est ce que Satan va reprocher à Jésus, à Dieu. Il va dire, finalement, si tous les hommes te sont fidèles, c'est parce que tu les protèges. Tu l'as béni et tout. Et ne l'as-tu pas protégé, littéralement, c'est être dans un enclos. Et parfois, de devenir chrétien fait que nous imaginons le monde autrement. Vous savez, si on prend une comparaison, par exemple, l'usine, hein, nous sommes à l'usine, oh, c'est difficile, il faut travailler. Et puis tout d'un coup, on connaît le patron. On connaît le patron personnellement. Ça change tout. Et on a des amis qui connaissent aussi le patron. On se regroupe ensemble dans une pièce. Alors, bien sûr, il faut toujours aller à l'usine, mais ce n'est pas la même chose quand on connaît le patron. Alors, parfois, on peut lui demander des choses. Parfois, il répond pas. Ou bien alors, finalement, la vie, c'est comme un long chemin. Un chemin qui mène vers le salut. Mais il y a des ronces à gauche, il y a des ronces à droite. Mais la difficulté, c'est que ce chemin, ce n'est pas très clair. Hein. On ne sait pas toujours s'il faut aller à gauche ou à droite. Et alors, on prie Dieu pour qu'il nous aide à faire le meilleur choix. Oui, mais si votre enfant vous demande qu'est-ce qu'il doit faire plus tard dans la vie, vous allez dire, bah, choisis, sois heureux. Il a le choix, en fait. Est-ce que c'est vraiment beaucoup d'importance? Est-ce que vraiment, il n'y a qu'un seul choix que Dieu voudrait nous faire? Et en plus, il est sadique parce qu'on doit essayer de deviner lequel. Est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs possibilités? Notre professeur, un professeur à Colonge, disait que, oh, finalement, et c'est un bon professeur, hein, je crois que j'aurais été fleuriste parce qu'il aimait beaucoup les roses. Je ne crois pas que le Seigneur ait été tellement fâché. Le problème, selon la manière dont s'imagine notre monde, c'est que pour que Dieu nous réponde, nous avons dans l'idée qu'il faut bien nous comporter et avoir un bon comportement. Et donc, finalement, la manière dont on interprète notre théologie, donc la manière dont on voit Dieu dans le monde, fait que nous allons nous comporter d'une certaine manière. Alors nous sommes sauvés par la foi. Ça, nous savons. Mais le danger, c'est que nous finissions par croire que nous sommes exaucés, que nos prières sont exaucées par les actes. Et donc, il faut bien se comporter pour que Dieu réponde à nos prières. Je ne suis pas si sûr que ça soit le cas. Et ça, ce qui peut nous aider également, fait, d'ailleurs l'épisode de Job nous l'apprend, c'est toute l'histoire du salut. Dieu a choisi de se lier les mains. Et si Dieu tout puissant qu'il est, parfois il ne peut pas intervenir. Et notre vie est un témoignage au monde entier de ce que Dieu peut faire dans notre vie sans nécessairement que nous soyons dans un enclos. Alors moi parfois, j'ai parfois plutôt l'impression d'être une boule de flipper. Vous savez, ce jeu-là, maintenant, on ne le voit plus, mais c'est... Donc ce jeu où cette boule circule et elle est ballottée de tous les sens. Et la vie, parfois, nous ballotte d'un sens à l'autre sans qu'on s'y attende. Mais qui est derrière le flipper, en fait? C'est ça la question. Maintenant, je suis embêté parce que, en même temps, dans la Bible, nous pouvons lire « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » en vérité, je vous le dis, vous demandez ce que vous demanderez au Père, il le vous donnera en mon nom. Ben, ça a l'air d'être automatique, là. Hein. Il n'y a pas un nombre d'hésitations. Demandez, et vous la même chose dans les paraboles. Demandez, et il vous le donnera. Cherchez et vous trouverez. » Et il prend l'exemple, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Mais ce n'est pas mon expérience. Quand on prie, quand moi je prie, ben, je n'ai pas toujours une réponse à ma prière, je dois dire. En même temps, toujours dans les paraboles, un peu avant, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu, et ainsi de suite. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc de rien. Cherchez premièrement son royaume, sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Mais là aussi, moi, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, hein. Tout le temps. Pour comment est-ce que je vais finir le mois, pour des questions d'argent, hein, tout le temps. Pour, je m'inquiète pour la famille, pour ma santé. Quand je suis comme je suis pour le moment en bonne santé, ça va. Mais la santé de mes proches, oui, vraiment, pour plein de choses. Sur qu'est-ce qu'on va faire, comment le monde va tourner maintenant. Mais ce qui m'ennuie, c'est que, en introduction de cette parabole, on peut lire, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc, ça veut dire que la parabole de Jésus qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter est introduite par ce petit avertissement. Nul ne peut servir deux maîtres. Autrement dit, c'est un peu comme celui qui s'inquiète, ben il sert Mammon, quoi. Il sert un autre Dieu que celui qui ne s'inquiète pas. Et ça me fait peur, ça. Donc, finalement, Dieu invite à ne pas nous inquiéter, et à la fin de sa parabole, il explique « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. » Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, finalement, ça, ne pas s'inquiéter? Alors, vous savez, le livre sur la prière, finalement, j'en ai regardé quelques-uns, et quand vous regardez le contenu, on nous parle beaucoup de choses, mais pas beaucoup de ce qu'il faut prier, finalement. Qu'est-ce qu'il faut prier? Et la plupart du temps, quand on parle de la prière, c'est open bar, hein. On peut prier ce que vous voulez, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prière que Jésus souhaite plus spécialement nous entendre? Alors je me souviens d'un témoignage qui m'avait frappé à Collonges et qui peut-être va nous donner quelques pistes. C'était deux étudiants et du haut de l'estrade, ils racontaient qu'ils ne pouvaient pas se sentir au début d'année. Ben, forcément, ils étaient différents, mais ils ne pouvaient pas se sentir. Ils ne pouvaient pas se voir, quoi. Ça, c'est un peu problématique quand on s'apprête à devenir pasteur, hein. Alors, ils ont tous les deux, de leur côté, fait un travail sur eux-mêmes. Ils commençaient à réfléchir, à prier, et à essayer de considérer l'autre différemment. Et ça a pris du temps, mais par après, ils sont devenus amis. Et ça les a marqués, cette expérience, au point d'en faire témoignage du haut de l'estrade. Mais moi, j'écoutais comme ça, hein. Je dis, oh là là. C'est incroyable. Et je dois dire, je fais cette expérience aussi, parfois d'avoir des préjugés sur quelqu'un et de découvrir par après que, en m'intéressant à sa vie, en essayant de comprendre pourquoi il faisait ceci ou cela, de découvrir après que cette personne, finalement, n'était pas comme je pensais et de la voir avec d'autres yeux. C'est vrai que c'est très agréable comme expérience. On a l'impression de redécouvrir quelqu'un. Mais on n'entend pas ce genre de témoignage quand on parle de prière. Et pourtant, quand je me regarde moi-même, il y a plein de choses pour lesquelles je pourrais demander à Dieu de travailler dans mon cœur. Je ne vais pas vous donner la liste, mais réfléchissez vous-même à votre propre situation. Et si vous avez des difficultés, demandez à votre épouse ou à quelqu'un de proche, ils vont vous donner des idées, hein. On n'entend pas souvent quelqu'un dire « Oh, vous savez, j'étais insupportable, et grâce à Dieu, maintenant, ça va un peu mieux. » J'étais jaloux, oh là, j'étais jaloux, oh, j'étais susceptible. Maintenant, ça va un peu mieux. Alors, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et c'est vrai, C'est pas toujours facile de demander de demander à Dieu ce qu'il souhaite que nous lui demandions. Souvenons-nous, on a par exemple 2-3 exemples. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Encore pour la sagesse. Mais reprenons le passage d'Ellen White. En fait, si on le lit plus attentivement, elle dit la même chose. Quand nous quêtons pour des bienfaits terrestres, la réponse à notre prière peut subir un délai. Parfois oui, parfois non. Mais quand nous prions pour être délivrés du péché, Dieu répond tout le temps. Si quelqu'un dit, alors bien sûr, ça demande une fidélité, une honnêteté vis-à-vis de Dieu, et de faire en effet, de vivre en effet selon ce que notre conscience et ce que nous connaissons de la Bible, des enseignements de Dieu, afin que Dieu puisse écouter notre prière. Alors, que Dieu nous inspire à pouvoir nous rapprocher de lui et faire de lui quelqu'un qui nous est proche dans des souffrances. Et finalement, que nous puissions nous poser la question, non pas pourquoi ceci ou cela nous arrive, mais en ce qui concerne nos prières, parfois de nous dire, mais pourquoi prier cela? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que si nous arrivions à laisser de côté au pied de Jésus certains de nos soucis, ça ne nous permettrait pas d'avoir une réelle liberté et de voir vraiment que, au-delà que Jésus peut en effet, sans que nous en fassions notre première préoccupation, mais nous aider à vivre dans ce monde plus ou moins correctement. Amen.